Amis de la dissidence, bonsoir. Monsieur Brignot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez de l'entendre, madame Victoria, bonsoir.
Bonsoir, monsieur l'entendre.
Je présente François Brignot, que vous connaissez bonsoir, peut-être par ses écrits. Bonsoir. J'ai dû lire deux ou trois articles de lui dans la presse.
Elle lit peu.
Je ne lis pas.
Elle ne lit pas. C'est qu'une femme, au fond.
Eh oui.
Elle a une âme, elle a une âme.
Oui, mais pas plus longtemps. Depuis le concile de...
Je ne sais pas.
30. Vous savez pourquoi ça s'appelle le concile de 30? Parce qu'il y avait 30 évêques qui étaient réunis, bien sûr. Ouais. Voilà. Bon, toutes ces bêtises étant dites, je reçois donc François Brignot. Je vais donner le programme parce que des auditeurs m'ont demandé, d'une façon d'ailleurs combinatoire. J'ai remarqué, tiens, je vais le dire tout de suite, j'ai remarqué que le courrier devient un petit peu tendu ces temps-ci. Mes enfants, il ne faut pas s'énerver, hein. Il ne faut pas se fâcher, il ne faut pas se laisser aller à des mouvements d'humeur. J'ai reçu des courriers désagréables.
On me dit des méchancetés.
Oui, on me dit des méchancetés, on me dit des choses pas gentilles, on me prête des sentiments qui ne sont pas les miens, des arrière-pensées que je n'ai pas, enfin des choses pas bien. Il ne faut pas attribuer aux autres ses propres turpitudes. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, on se calme, on envoie des mots gentils, comme ça on est lu au micro. Autrement, si c'est méchant, on n'est pas lu. Si vous voulez que votre message soit lu, il faut qu'il soit positif. Du genre, j'ai infiniment d'admiration pour Serge de Beckett. Voilà, ça, ça passe. Alors, si vous dites, en revanche, le gros félon qui a été acheté par Serge Martinez, ça, ça passe pas. Je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine, ça passe pas.
D'abord, vous n'êtes pas gros.
Hein? D'abord, je suis pas gros, juste un peu enveloppé. Et puis en plus, j'ai pas été acheté par qui que ce soit, ça se saurait. Donc, je reçois François Brignot, ensuite je recevrai M. Georges Clément et Maître Philibert Lepi pour parler des questions qui les intéressent. Ils nous diront de quoi ils retournent, comment, qu'est-ce qu'il y a.
Est-il inscrit sur la fiche?
Oui, il est inscrit sur la fiche, il est fiché. Ensuite, avec Guy Lévideux, journaliste critique de bande dessinée, nous parlerons des staliniens dans la bande dessinée, c'est-à-dire les gens qui exercent la censure au salon de la bande dessinée d'Angoulême, qui est un événement de culture en ce moment à Angoulême. Et je recevrai ensuite M. Louis-Hubert Rémy et nous parlerons d'une association, d'un groupe qui s'appelle les Amis du Christ Roi. Et comme ça, après, nous pourrons rentrer chez nous et nous occuper de choses intéressantes. Pour arrêter d'écouter la radio, c'est ça que je veux dire. François Brignot, donc je vous répète le plaisir que j'ai à vous recevoir ce soir. Et je vous reçois parce que vous venez de publier un livre. D'ailleurs, ce que je dis, contrairement à ce à quoi vous étiez non pas engagé, mais enfin, on avait bien l'impression depuis un certain temps que vous aviez décidé de mettre un terme à vos activités avec les derniers cahiers. Et puis là, il y a eu une espèce de retour de flamme, c'est le cas de le dire.
J'ai eu du mal déjà à arrêter ces derniers cahiers. J'avais annoncé que je partais, que les gens ricanaient, c'est mistinguette avec mon poids, ça faisait drôle quand même. Mais...
Attendez d'adieu.
Et puis, il faut bien dire aussi, c'est que quand on a passé sa vie à écrire, quand on n'écrit plus... On s'ennuie un peu.
On a de l'ankylose, on prend de l'ankylose dans les doigts.
Ouais. Mais quand même, avec le drame du Front National, cette déchirure, je pensais ne plus écrire sous cette forme-là. Peut-être, j'ai même mis en train un énorme roman. Il y aurait au moins à avoir 1800 pages. Il y a quand même une centaine d'écrites déjà, mais enfin, 1800 pages. Et puis, en rassemblant les chroniques que je voulais un peu laisser, je me suis dit que j'étais obligé de faire une préface pour expliquer pourquoi et comment je n'avais pas pu poursuivre ces chroniques qui tenaient une place importante dans ma vie. 3-4 jours par semaine, je pensais au sujet, j'essayais de trouver un angle, une drôlerie, etc., à ma façon. Et puis en même temps, là, il y a eu une chose, il y a eu une déclaration du président Le Pen sur la presse ennemie, et ça, j'ai pas pu supporter. J'ai donc un peu changé l'orientation de ce livre, qui encore une fois à l'origine devait être un florilège de ce que j'avais écrit de moins toc. Et Et j'ai fait une préface qui racontait, non pas ce qui s'était passé, mais ma vérité, mon témoignage sur un naufrage qui fut peut-être un sabordage. Je me suis accusé là aussi, et c'est vrai, de ne pas avoir vu venir cette affreuse cassure. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Je l'ai vu venir, mais je n'ai pas voulu la voir. Et j'avais tellement confiance en l'intelligence et en la supériorité intellectuelle de Jean-Marie Le Pen que je me disais que c'était de la frime, il n'irait pas jusqu'au bout parce que cette cassure, il allait en pâtir autant que Monsieur Maigret. Et puis je me suis trompé, mais je me trompe souvent dans la vie d'ailleurs. Je me suis trompé et je me suis retiré à ce moment-là. Mais quand il a accusé la presse ennemie, la presse amie d'être la presse ennemie, quand il a traité présent le journal absent, tout ça j'ai pas pu le supporter. Moins pour moi que enfin là que pour d'autres, pour tout aussi tous ces gens qui ont cru tellement en nous, qui ont mis tellement d'espérance. On pouvait toujours douter de l'efficacité du front, même avec des taux importants de voix. Mais néanmoins, il y avait une vie d'une France qui est tout proche de nous, que je trouvais chaque année au BBR. Et j'avoue que c'était des journées de bonheur. On retrouvait des gens d'une année sur l'autre. Il y avait des discussions banales, admirablement banales. Où l'amitié courait avec un frémissement, avec quelque chose dans notre style à nous, un peu grossier peut-être, et toujours l'émotion derrière, on se retrouvait, et tout ça à cause de problèmes de caractère, et a été brisé en quelques semaines, et j'ai donc fini au bout de 6 mois. Par écrire cette préface à ce livre de chroniques. Et il faut dire que j'étais assez brisé de tout ce qui était arrivé.
Ouais, je crois que c'est un état d'esprit, c'est une blessure qui a été ressentie par tout le monde, que ce soit Jean Madiran de présent, que ce soit
Wagner,
Georges-Paul Wagner aussi. Moi-même, on a été stupéfaits. Et on a été stupéfait, abasourdi, vraiment blessé, et plus blessé encore par le naufrage que par l'espèce de vocifération qui a accompagné ce naufrage.
Il y a eu le tout, il y a eu des déclarations qui étaient inadmissibles. Le fait qu'il y ait un schisme, il y a des schismes, il y a des cassures partout dans les familles, il y a des divorces. Mais la manière dont ça s'est fait, cette espèce de tragicomédie, de burlesque qui nous détruisait, nous, parce que de traiter des camarades avec lesquels nous avions... auprès desquels, avec lesquels nous avions combattu pendant des mois, des années, les traités brusquement d'antisémites, de racistes, c'était pas supportable. Enfin, je pense pas qu'il faille s'étendre là-dessus. Ce que je veux dire sur ce livre, c'est que, encore une fois, c'est ma vérité, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que je sais, c'est ce que je crois. C'est mon intime conviction. C'est le fruit d'une réflexion profonde et que je continue toujours. Tu me connais assez, Serge. Je n'affirme pas grand-chose. Moi, je doute souvent et de mon jugement, je le remets. Et si je me suis forcé à écrire cela, c'est parce que je crois que c'était nécessaire que quelqu'un l'écrive.
Il y a un aspect très très frappant dans ce livre. C'est je peux le dire moi parce que je suis un lecteur, puis j'étais un témoin des événements aussi. Il y a donc deux aspects qui sont à penser. D'une part, ce que vous disiez tout à fait au début de votre intervention, c'est le fait que tout était écrit depuis 10 ans, en réalité, et que on n'y a pas cru, on n'a pas voulu croire, ou on a craint peut-être, en faisant état, de provoquer la chose. Là, une espèce de pensée magique, pratiquement. On s'est dit, si on en parle, ça va arriver. Et puis finalement, le fait qu'on n'en parle pas, ça a fini par arriver quand même.
Là, il y a aussi une chose, c'est qu'on ne voulait pas en parler pour ne pas servir l'ennemi. On était des journalistes, mais on était des soldats engagés dans un combat politique. Et ça, je crois que ça nous a retenus, a-t-on eu tort ou raison, on pourra discuter 100 fois. Souvent, je me suis dit, j'aurais dû parler publiquement, j'aurais fait le clash peut-être avant, mais j'aurais dû en parler publiquement. Mais on ne voulait pas donner... Or, quand on trouvait dans la presse ennemie, dans la vraie presse ennemie, des récits entiers, des confidences faites par des dirigeants politiques, des deux bords, et qui racontaient les dessous de la querelle, on était malheureux comme tout, et on s'est quand même maintenu dans ce silence-là, qui était un silence qui voulait servir notre cause, et peut-être on aurait dû intervenir d'une façon différente, et encore, Campeltier a essayé de lui d'en parler quand il a dit assez de ces discussions, il s'est fait jeter quand même.
Il y a un autre aspect, je disais, donc il y a deux aspects, il y a celui-là, et puis le deuxième aspect, c'est l'extraordinaire exactitude des faits que vous rapportez. Au moins, je peux parler de ceux dont j'ai été le témoin, ou de ceux que j'ai vus, les souvenirs que j'ai. Et il y a une question, François, que je voulais vous poser depuis très longtemps, c'est celle de votre façon de travailler, parce que je viens de relire pour la troisième fois le journal des Goncourt, j'ai lu en même temps d'ailleurs Chose Vue et les mémoires de Léon Daudet, et je trouve qu'il y a cette espèce de, chez vous, cette espèce de précision dans les souvenirs, qu'on trouve chez les Goncourt, chez Daudet, et un peu moins dans Chose Vue quand même, parce que là c'est un petit peu plus réécrit. Bon. Mais même chez Daudet d'ailleurs c'est réécrit, mais il y a cette précision des choses, des mots, des mots prononcés, des phrases prononcées, qui est extraordinaire. Et je vais vous poser une question un peu indiscrète. Est-ce que vous tenez un journal ? Est-ce que le soir vous écrivez ce qui vous est arrivé dans la journée ?
Non, je n'ai jamais tenu, j'ai toujours essayé, je n'ai jamais réussi à tenir un journal. Pour la première fois, j'en écris un cette année, et qui est un journal encore assez particulier. Mais ce que je fais, c'est que je note, par exemple, lorsque nous avons dîné ensemble, quand je suis rentré, j'ai pris des notes comme ça. Mm-hmm. Mais ça peut être des notes sur un bout de carnet, sur une feuille volante. J'ai jamais réussi à faire un journal ordonné, comme l'ont fait Gide, Le Renard, des gens comme ça. J'ai jamais réussi. Mais je note beaucoup. Par exemple, lorsque je lis un livre, j'écris en marge, j'écris sur les pages blanches du livre, j'ai des bouts de cahiers, je trouve des cahiers que j'ai commencé, que j'ai jamais terminé. Et comme lorsque j'étais enfant, je faisais un cahier le 1er octobre, c'était admirable.
Oui. C'était des quel plaisir de
plein, les déliés, tout était tiré à l'un. Et puis au bout de, comme je n'étais pas un bon élève sérieux, au bout de 8-10 jours, on voyait l'écriture qui devenait, eh bien, j'étais un peu comme ça, enfin, là dans ma vie, mais j'ai noté beaucoup, et mon métier de journaliste m'a beaucoup apporté. J'ai fait beaucoup d'interviews, on n'avait pas d'appareil pour enregistrer, et il fallait donc un effort d'attention extraordinaire, enfin extraordinaire pour une petite nature, comme la mienne, et pour essayer de voir, de regarder, de voir l'œil, la physionomie, les cheveux, le sourire, la manière dont le monsieur parlait, ou la dame parlait, et en même temps de retenir, avec le minimum d'écriture, ce qu'il ou qu'elle disait. Et dès que j'avais fini l'interview, c'était pas des interviews fleuves, bien entendu, je descendais ventre à terre au bistrot, parce que c'est là toujours où je vais pour me recueillir, mais en même temps pour noter tout de suite ce que j'avais vu. Et alors cet ensemble me permettait de faire des papiers. Et j'ai souvent fait, j'ai développé une mémoire c'est particulière.
Plus une mémoire visuelle, auditive, une mémoire de l'intelligence.
Visuelle d'abord.
D'abord. Oui. Oui. Parce que c'est très frappant quand on vous lit, mais pas seulement dans ce dernier livre, dans tous vos livres. Il y a cette espèce de mémoire très profonde. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les choses remontent à la surface. En trois mots, je pense notamment aux pages où vous racontez les derniers moments de Brasillac, par exemple. Il y a une vérité en trois mots. On a l'impression d'un croquis tracé très vite, comme ça, et on voit le visage de Brasillac. On sent l'ambiance, on entend.
Mais là, j'ai pas vu Brasillac.
Oui, mais vous l'avez entendu.
J'ai pas entendu les coups de feu. Mais j'ai vu Brasillac dans sa cellule de condamné à mort. J'ai raconté ça 100 fois. Mais lorsque j'ai su qu'il allait être tué, lorsque le silence s'est fait dans la prison, c'était par le silence qu'on entendait. Brusquement, on entendait le silence. Normalement, les jours où il n'y avait pas de fusillés à Fresnes, le premier repas du matin qui consistait à une demi-boule de pain et un peu de viande ox commençait vers 7h30. Et là, c'était encore l'hiver, c'était en février. Le 6 février, on va arriver. Et j'espère que ce jour-là, les gens, puisqu'il y a une grande actualité judiciaire, reliront le jugement des juges. C'était un des grands morceaux des poèmes de Fresnes. Et donc, on savait qu'il allait y avoir des gens qui allaient mourir ce matin. Et donc, ce silence vous réveillait dans votre sommeil, parce qu'une heure avant, tout était clos à l'intérieur de la prison. Et il y avait quelques petits bruits furtifs. Là, on savait que c'était le prêtre qui arrivait, que c'était les officiels qui arrivaient. Et ça, c'est vrai que j'ai une nature, j'ai un peu une nature éponge. Je reçois ces émotions et elles restent en moi, ça c'est sûr. Et j'arrive ensuite par je ne sais quel miracle à les mettre sur le papier et à faire, parce que c'est ça le problème, qu'elles vivent, qu'elles soient reçues par celui qui le lit. Il n'y a pas de règle, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment traduire l'émotion qu'on a reçue pour qu'elle devienne vivante dans le cœur et l'esprit d'un homme ou d'une femme qui vous lit.
Mais au moment où, dans le cas que vous venez d'évoquer, le dernier jour de Brasillac, là, c'est évident que l'événement est tellement énorme pour vous sur le plan personnel et sur le plan historique, c'est quelque chose qui marque forcément. Mais dans d'autres cas...
Surtout que je crois qu'il est sauvé. Oui. Parce que je me dis, s'il n'est pas tué ce jour-là, ça fera 15 jours. Et je me dis, ils vont pas voir quand même le tuer le 6 février, il y aurait un symbole trop grand. Oui. Je me dis, donc j'ai une espérance formidable. Et puis brusquement, le silence.
Mais quand il s'agit d'événements plus anodins, pardon, en apparence, comment est-ce qu'il vous arrive de... Est-ce qu'il vous est arrivé de sentir que vous viviez un moment très important et de déguiser un peu plus votre attention?
Je ne sais pas à quoi tu fais allusion, là, mais si c'est à notre dîner avec Le Pen, le dîner de la presse, où j'avais été convié par toi, d'ailleurs, à ce repas, il était évident que c'était... Au départ, c'était pas un repas extraordinaire, mais étant donné l'attitude et le ton, l'allure du président du front, il était évident qu'on était en train de vivre un moment dramatique et pour nous. Donc, je peux pas dire ça, comment ça se fait. C'est pas moi qui décide de ces choses-là. J'ai une mécanique intérieure. Presquement, tous mes sens deviennent en éveil et j'écoute et je ne note pas, je sais pas, je retiens. Et après, j'essaye d'être seul. ce qui ne fut pas le cas puisque je suis rentré à Saint-Cloud avec Madiran. Et donc nous avons parlé un peu, et ça j'aime pas parce que le fait de parler efface, ça gomme un peu l'émotion. Ça, il faut essayer de garder ce qu'on a vécu, ce qu'on vient de vivre. Il faut essayer de ne pas le troubler tout de suite. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Pour que ça reste vivant en moi, il ne faut pas que ça soit effacé par d'autres, par une discussion, par exemple.
Mais c'est vrai que les journalistes, enfin, je pense que beaucoup de journalistes ont vérifié que quand on raconte une histoire, on n'a plus envie de l'écrire.
Ouais,
le parfum est éventé.
Ça, c'est sûr.
Et je me souviens, il y avait à Minute, dans le temps, vous vous rappelez, on ne va pas dire son nom parce que ça le vexerait probablement et c'est pas utile, mais il y avait un formidable reporter qui avait tout, qui avait la curiosité, le talent, etc. Et il ne pouvait pas se retenir quand il rentrait de reportage de tout raconter.
Trois ou quatre fois.
Après,
il n'y avait plus de jeu.
Plus l'écrire, c'était effrayant. Il avait perdu tout le jeu.
Alors que je lui ai souvent dit, répété, écrit tout de suite, il ira parler après. Mais non, son plaisir, c'était de jouer ce qu'il venait de vivre.
Ah ben, en plus.
Et c'était merveilleux. Et quand il écrivait, c'était plat comme une limande. Ça, c'était terrible.
C'était très bien. Pour en revenir quand même à ce dîner, parce que c'est un événement qu'on peut... Maintenant, il y a... Je vois pas prescription. Enfin, on peut le voir avec un peu plus de recul, peut-être. Moins de passion, moins de souffrance, disons le mot. Quoi. Je crois que ce qui s'est passé quand même, je ne sais pas quelle est votre impression, mais moi j'ai eu vraiment l'impression que le ciel me tombait sur la tête, qu'on était pris totalement à contre-pied. Je ne m'attendais pas du tout à ça. On avait organisé ce dîner pour essayer de comprendre ce qui se passait.
Oui, exactement. Oui. Mais comme je l'avais vu, il était venu chez moi deux fois je tiens à ne rien dire ici qui soit des choses privées. Donc, ce livre a été fait d'ailleurs sans aucune indiscrétion. Et je ne me suis servi de documents que ceux que Le Pen m'a donnés. D'abord, je ne connaissais pas, je ne connais pas le clan beaucoup, le camp de Maigret. Je connais Monsieur Maigret un peu, mais je ne connaissais pas beaucoup. Et alors que je connaissais beaucoup Jean-Marie et l'équipe, et tout, il n'y a pas une ligne de ce livre qui ne m'ait été donnée par Le Pen, je tiens à le dire. Mais donc je savais quand même qu'il pouvait y avoir des moments désagréables dans ce repas. Je me doutais que si on posait le problème pour moi, il était simple, il était simple, c'était un problème électoral. Fallait-il casser cette alliance en pleine campagne électorale, ou bien attendre, voir si les choses ne pouvaient pas se rabiboucher avec le ticket Le Pen-Maigret? On faisait vraisemblablement 16 ou 17%, les autres disaient beaucoup plus, moi je disais 16%, toujours modeste, et on devenait certainement le deuxième ou troisième parti, et à partir de là, c'est toujours la même chose, on arrivait pas à s'imposer, on arrivait à compter davantage, c'est comme ça, c'est l'arithmétique électorale, on pourrait parler aussi des heures là-dessus. Et visiblement, je commençais à douter depuis octobre je me disais c'est pas possible. Et puis là, il a été visible. Ne serait-ce que dans le ton du début, parce que c'est même pas quand on a eu ces discussions, qui auraient pu tourner assez mal dans la violence. Et il y avait dans une agressivité et un mépris pour nous, au fond. Et ça, c'était consternant, et c'était blessant. C'était ce que j'avais quelquefois cru ressentir, et pourtant, j'avais repoussé. C'est pas possible, ça.
En fait, on le savait bien. Moi, combien de fois j'avais mesuré à quel point notre presse, par rapport à la presse ennemie, alors la vraie presse ennemie, mmh. La façon dont on
agaçait,
la considération qu'on nous montrait par rapport à l'espèce de considération supérieure qu'on montrait à des gens du Figaro, de Libération et tout, c'était quand même assez troublant. C'était systématique. J'en avais même fait l'objet d'une intervention à la Baule en disant que je commençais à être un peu fatigué du traitement qui était réservé à certains journalistes ennemis dont on savait à l'avance qu'ils allaient nous tartiner de merde, comme j'avais dit, alors que le journaliste ami était considéré avec un peu de mépris. Mais ça, après tout, on peut pas en vouloir à des hommes politiques de préférer les journaux qui tirent à 400 000 exemplaires à des journaux qui tirent à 12 000 ou à 3 000, ça c'est clair. Voilà.
Mais moi, quand je vois le gâchis, parce qu'au fond, c'est ça qui est important, les tristesses, les chagrins des uns, des autres, selon le moment de sa vie, à l'âge, bien sûr que c'est plus éprouvant d'avoir un échec quand on est au bout, on se dit tiens, on aurait pu encore espérer un peu, mais c'est pas ça qui compte. Mais il n'y a pas de jour où je me cabre quand je vois l'événement du quotidien, l'actualité et notre absence devant elle. Je pense par exemple à ces histoires de guerre scolaire. C'est prodigieux, le glissement qui s'est fait dans ce pays en quelques années. Dans ma jeunesse, la guerre scolaire, c'était la guerre entre l'école libre et l'école catholique qu'on appelait libre, parce qu'elle était libre d'être catholique sans doute, et puis l'école laïque, qui n'était pas du tout une école neutre, mais qu'on appelait l'école laïque quand même depuis Ferry. Or maintenant, la guerre scolaire, c'est la guerre que dans les écoles publiques, les élèves se font entre eux, ou font à leurs instituteurs, à leurs professeurs, aux gens de l'enseignement, que les pères ou les mères viennent faire aussi entre eux, ou vont faire aux enseignants. Tout ça dans un capharnaüm, un méli-mélo prodigieux. C'est une sorte de jungle misérable.
On distribue la pilule abortive à des gamines de 15 ans, probablement parce qu'elles se sont fait violer la veille.
On voit des gosses avec des lames de rasoir dans des bouchons, avec des cutters, et qui dépouillent leurs copains d'un blouson. Et tout ça, on voit des jeunes instituteurs, des jeunes institutrices qui sont effarés de ce qu'ils voient, qui n'osent même pas le dire, ils prennent des pseudonymes pour le dire, et alors que c'est leur métier, ils devraient témoigner haut et fort, et bien ils n'osent pas parce que ils sont dans une gang, et peut-être dans un gang le gang de l'éducation. Il faut pas trop dire, parce que si on disait, on mettrait à mal toute une conception de l'école. Et je pense au rôle qu'un grand mouvement national comme celui auquel j'ai fait partie, que j'ai même fondé en partie, et le rôle qu'il pourrait jouer là-dedans, c'est quelque chose de prodigieux, de dire aux Français et aux Françaises si attachés qu'ils sont à l'éducation, voilà, c'est vous avez voté, vous avez élu depuis des années et des années et des années et des années, vous avez mis en place des gouvernements successifs qui n'ont cessé de réformer l'enseignement. On a dépensé de plus en plus, toujours plus d'argent pour l'école, et voilà, on n'a jamais vu aussi misérable, on n'a jamais vu les enfants savoir mieux, moins, et surtout les moins doués. Les super doués, ils se débrouilleront toujours et ils arriveront toujours, mais c'est le moyen faible, c'est le gosse là du milieu de la classe. Celui-là, s'il est largué, il est largué, il est paumé complètement. Et on voit cette machine égalitaire qui au fond augmente les inégalités entre les êtres. C'est ça qui est formidable. Et nous étions le seul mouvement politique à pouvoir dire ça, et avoir là vraiment les mains propres, la tête haute. On était responsable de rien dans cet énorme gâchis, et que cela ait disparu me navre.
Mais il y a quelque chose d'autre qui a disparu, c'est la droite nationale des médias, totalement. C'est-à-dire qu'avant, on disait du mal de nous, mais enfin, bon, on en parlait un petit peu, tandis que maintenant...
On existait.
Et on est... moi, je suis absolument... ivre de rage, à certains moments, et de dégoût d'entendre c'est la racaille politicienne venir se pavaner sur le devant de la scène, comme pour dire, vous voyez, maintenant, on vous emmerde, vous n'existez plus, vous n'êtes plus là, on peut faire ce qu'on veut. On sent que ces gens-là sont libérés d'une crainte qu'ils avaient. Ils avaient quand même peur de ce que représentait la droite nationale, les 20% de Français, peut-être plus, qui, à un moment ou à un autre, avaient voté pour le Front National parce qu'ils partageaient certaines valeurs et certaines idées de la droite nationale. Et donc, cette racaille politicienne, cette espèce de mafia de corrompus, de pourrisseurs, se disait, il faut quand même faire gaffe, il y a peut-être un moment où il va y avoir un retour de flamme. Et là, il n'y a plus rien. On les sent complètement libérés de cette inquiétude. Et on voit bien que c'est de pire en pire.
Ils sont entre eux.
Oui, ils sont entre eux.
Ils ont réussi à nous mettre sur la touche.
Passe-moi la rhubarbe, je te passerai le séné. C'est, tu ne parles pas de l'affaire des lycées, je ne parle pas de l'affaire machin. Et en plus, tout ça, en se balançant impunément au visage leur tombereau d'ordure, alors on voit sortir une incroyable série de scandales qui, dans toute république autre que, c'est même pas une république bananière maintenant, c'est dans toute république normale, dans tout état normal, ça aurait provoqué l'explosion des structures de l'État ou du gouvernement. L'affaire Kohl, quand on apprend que une grande société pétrolière française, sur ordre du président de la République française, a payé l'élection d'un type qui, en plus, appartenait à un parti qui était censé être l'adversaire des amis du pouvoir français. Enfin, on croit rêver, l'affaire Kohl-Mitterrand.
Or, oui, et puis là, on découvre alors aussi, on découvre toutes les coulisses de la politique. C'est prodigieux, parce que pourquoi ce personnage de Kohl, ce père de l'Allemagne réunifiée, c'est cet homme qui a été, après Adenauer, après Schuman, après De Gaulle, modèle 62, après Mitterrand, après Valéry Giscard d'Estaing, après plusieurs autres, le père de l'Europe franco-allemande, c'est ça. Pourquoi brusquement cette autorité fantastique, cette masse, se fait flinguer en vol? Il est dégommé en 15 jours, il est pour rien, on ne sait pas s'il ne va pas croupir, alors que toutes ces choses-là étaient connues, mais il y a eu le pouvoir médiatique international, le pouvoir médiatique des grands syndicats, et comme cette Europe franco-allemande n'a jamais été acceptée par l'Angleterre, chercher un petit peu d'où sont venus les coups. Ouais. On a trouvé le moment, la faiblesse, et on l'a tué. Et c'est vrai aussi, et c'est vrai que tous ces gens sont corrompus, parce qu'il y a une chose qui me fascine, c'est quand on dit mais ils ont pris de l'argent, mais pas pour eux.
Oui.
C'était pas pour leur enrichissement personnel. Ah. C'est vrai, parce que leur enrichissement, le véritable enrichissement, il est culturel. Et c'est ça, ils sont pas très très riches, ça c'est sûr. Mais comment peut-on dire des choses comme ça? Quand vous faites un racket d'État, comme le Parti Socialiste l'a fait pendant des années et des années, pour avoir des élus, c'est pour se faire élire. Et quand on est élu, on s'est quand même enrichi personnellement un petit peu.
Oui.
Donc, il y a un enrichissement personnel, même dans l'action politique.
Quand on voit un prof d'université devenir propriétaire de 400 mètres carrés Place des Vosges, à Paris, par exemple, je sais pas ce que gagne un prof d'université, mais j'ai pas l'impression que ça soit parfaitement courant. Les profs d'université, 400 mètres carrés Place des Vosges, je vois pas. En revanche, des politiciens, on voit très bien. Et on en a vu d'autres. Un petit avocat sans beaucoup de cause.
Ce monsieur que vous dites là, il s'est fait élire conseiller de Paris. Et un de mes amis qui était conseiller de Paris, il disait, on le voyait une fois par mois, il venait chercher son chèque. C'était un tout petit chèque parmi tout ce qu'il pouvait toucher.
Oui,
mais c'était son chèque.
Ça s'appelle peut-être le téléphone, l'électricité ou le cigare.
C'est prodigieux de voir l'argent. D'ailleurs, ils ont eu Mitterrand qui lui dénonçait l'argent qui corrompt, l'argent qui tue. Il était entouré que d'hommes d'argent. Ouais. Et dans ces histoires, on ne trouve que des histoires de fric. Jusqu'au jour où on trouvera vraiment les grosses histoires. Mais il y a eu des morts, il y a eu des contes bizarroïdes, tout ça, des histoires qui n'ont jamais été éclaircies, qu'on a étouffées. L'argent. Mais on le voit partout, l'argent.
Et ce qu'on voit aussi, c'est que tous ces hommes politiques, de très haut niveau, que ce soit Kohl, que ce soit Mitterrand, que ce soit Chirac, sont des gens tenus. Parce qu'à l'heure actuelle, Chirac est tenu, dans la mesure où si l'affaire des fausses factures de Paris éclate, tout le monde dit, la seule protection qu'il a, c'est qu'il est président de la République et qu'il ne peut pas être mis en examen.
Mais si, il y a un curieux raisonnement.
Ce qui est un curieux raisonnement, mais enfin, admettons-le. Mais c'est donc un homme tenu. Mitterrand était un homme tenu. Tous ces hommes sont des hommes tenus. Et là, on voit ce qui se passe quand un homme tenu est lâché, parce qu'il ne sert plus à rien, parce qu'on n'a plus besoin de lui. On avait le cas avec Brandt, Willy Brandt, le système n'a plus eu besoin de lui, il a été lâché au chien. Kohl est lâché au chien. Mitterrand a été lâché au chien, et puis il est mort avant de pouvoir passer dans l'écuelle des chiens, mais autrement il aurait été bouffé comme les autres. Et on voit très bien qu'il y a un système qui tient ces hommes politiques et qui leur dit de faire ce qu'ils doivent faire sous peine de les exécuter, et quand on n'a plus besoin d'eux, on les jette comme un...
Mais là il y a quand même quelque chose qui me choque pour le président de la République. On ne peut pas le poursuivre parce qu'il est président de la République, selon je ne sais plus quel article de la Constitution. Très bien. Mais cet article précise que c'est dans l'exercice de ses fonctions. Ce qu'il fait en dehors de ses fonctions et ce qu'il a fait avant ses fonctions n'empêche nullement, ne devrait empêcher nullement qu'il soit poursuivi. Et si demain il va violer une petite fille, il ne sera pas poursuivi ? Ça sera quand même
c'est
dans
une
l'exercice.
Bonne question. Il aurait tort de se gêner. Enfin, peut-être que... Il y a une autre affaire qui vient d'éclater et qui est tout à fait dans le même esprit, c'est l'affaire des lycées d'Île-de-France. Et on a découvert, vous savez, à la suite des tempêtes, que les assurances à qui on demandait le remboursement de certains dégâts ont dit, mais vous nous demandez de rembourser des travaux qui n'ont jamais été faits. Ils ont été payés, c'est sûr, mais ils n'ont jamais été faits. Donc on a découvert encore une affaire de fausses factures qui porte sur des centaines de millions. On dit, enfin j'ai vu ça dans la presse, c'est rentré dans les caisses des partis, mais on le dit comme si c'était à peu près naturel.
Oui,
c'est tout à fait normal que les partis s'engraissent avec de l'argent volé. Et à chaque fois, on dit, tous les partis, et on cite le RPR, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, puis la nébuleuse centriste, etc. Et on dit tous les partis. Or, là, il est parfaitement clair aussi que la disparition du Front National, sinon en titre, constitue pour ces gens-là un avantage formidable, parce que dans le temps, il y avait toujours une petite voix qui disait « Non, pas nous. Non, pas nous.
Oui,
nous, on n'a pas pris de fric. Nous, on n'est pas des corrompus. Nous, on n'est pas des voleurs. Nous, on n'est pas des profiteurs du système. » Tandis que maintenant, comme au moins médiatiquement, le mouvement national, le Front National n'existe pas, eh bien, il revient à l'idée des Français que tout le système est totalement corrompu.
Il a perdu en tout cas sa puissance d'impact. Mais surtout dans cette histoire de corruption, c'était une force, une figure de proue, un élan. J'ai entendu l'autre jour chez des amis bretons des gens qui avaient été sur les côtes. Travailler, essayer de sauver enfin, le goudron. Il y avait là des gens de gauche, des gens de droite et des Verts. Et alors on chansonnait les Verts et on critiquait les Verts parce qu'on disait que si Mme Voynet avait préféré chercher des bigorneaux dans les coraux de La Réunion qu'elle prenait pour les Antilles, d'ailleurs, c'est assez surprenant. Enfin, à l'heure actuelle, question pour un champion, on n'est pas forcément au pouvoir. Mais quand on disait ça, les gens disaient, oui, mais bien sûr, elle était un peu embêtée là-dessus. Ah bon? Pourquoi était-elle embêtée? Ah ben, vous savez bien, quand même, on fait pas de mouvement politique sans argent. La cible numéro un des Verts, c'était le nucléaire.
Bien sûr.
Qui pouvait aider la lutte des Verts contre le nucléaire? Qui avait intérêt à la soutenir? Beaucoup de gens. Peut-être un peu les pétroliers. Alors, est-ce que Total avait donné de l'argent aux Verts? Sans doute pas. On ne peut pas imaginer une chose et turpitude aussi grave. Mais enfin, il n'est pas interdit de penser que... Et à partir de ça, ça naissait. Je ne sais pas si Madame Voynet, ni si les Verts... Mais je pense que le raisonnement est tel dans les esprits que ça fait son chemin. Et que si que des gens simples appartenant au Morbihan et au Finistère, donc des gens... La Basse-Bretagne, on sait bien. Hein,
mais... Le Bas-Breton, enfin, c'est bien connu.
Le Bas-Breton.
C'est un peu d'humain, tout ça.
Pommes de terre pour les cochons, les épluchures pour les Bretons, c'est bien connu, ça. Eh bien, que ça vienne germer dans des cervelles aussi primitives et attardées, c'est que c'est... Le soupçon est dans l'air. L'argent, c'est pas possible que ça soit comme ça. Et si ça l'est, parce que on ne parle que de ça. Un joueur de football, M. Anelka, se fait vendre pas pour 200 millions. Le petit joueur qui va dans un petit club jouer avec sa petite balle, il se dit, mais peut-être un jour, c'est plus l'amour de l'équipe, c'est plus l'amour du jeu, c'est plus l'amour du sport, c'est le pognon. Mmh. Et ça, c'est en train de rentrer partout. Et nous avions... Pour un peu par chance, parce que nous n'avions pas eu de grandes responsabilités, donc nous n'avions sûrement pas eu les tentations que les autres partis ont eues. Si nous avions eu les tentations, peut-être nous n'aurions pas été aussi nobles. Les hommes sont les hommes. Mais nous avions une carte formidable à jouer et nous n'avons pas pu la jouer.
François, vous avez parlé de Bas-Breton. Je vous propose d'écouter quelque chose que j'ai sélectionné pour vous. Vous connaissez ce genre de musique? Ça évoque quelque chose pour vous?
Oui, bien sûr.
Alors, on va donner la parole. J'attends que Victoria, qui était sortie pour un problème technique, voilà, revienne, ce qui est le cas. Et on va à présent donner la parole aux auditeurs. Alors, je précise que j'ai demandé à Victoria, qui en a été d'accord, de lire tous les messages. Tous, sans exception. Ça va être un petit peu long, mais je vous demande, François, d'écouter les messages et puis peut-être de prendre des notes si vous voulez répondre à certaines... si vous voulez y répondre. D'ailleurs, je vais vous donner pour ça une feuille de papier. Il a ce qu'il faut, absolument. Alors, ma chère Victoria, c'est à vous.
Attendez, voilà, parce qu'il y en avait des nouveaux qui arrivaient, je les ai mis en dessous. Autant dire que vous accusez Jean-Marie Le Pen d'avoir cassé le front exprès. Mais un paquebot ne souffre pas les mutineries. Monsieur Brignot, ne vous êtes-vous pas demandé s'il n'y avait pas une autre raison? Le Pen contre Jean Le Front, absurde. Il était sûrement au courant de quelque chose se tramait. Il a annoncé la candidature de sa femme pour faire avancer la scission par Maigret. Il a déjoué le piège de ceux qui voulaient le trahir. J'ai 25 ans et je suis sympathisant Front National. Fin novembre 98, c'était avant le clash, j'ai assisté à un dîner débat avec M. Maigret à Montpellier. À la fin du repas, sous l'impulsion d'une dizaine d'excités criant Maigret président, ce dernier a affiché un grand sourire et a levé les bras en forme de V. À partir de là, ma religion était faite. Malgré toute ma sympathie pour Serge de Becquetche et François Brignot, je ne démordrai pas du fait qu'on ne remet pas en cause le président d'un parti à 6 mois d'une élection. Monsieur Brignot, vous êtes-vous posé la question « Pourquoi Maigret n'a pas attendu 2 ans ?» En se posant cette question, vous trouverez des tas de « parce que ». C'est Monsieur Le Pen qui est responsable de la cassure. Je fais confiance à Monsieur Maigret pour l'avenir et lui rends hommage. Je reste persuadée que Monsieur Maigret a été payé par le RPR ou un autre parti de droite pour abattre le Front National. Le Pen m'a tué. Je suis pour Le Pen et j'aime François Brignot. Mais si c'est pour taper sur Le Pen, je n'écouterai plus Radio Courtoisie. D'ailleurs, je remarque que Jean-Marie Le Pen n'est plus reçu que chez le commandant Guillaume. Si vous continuez à critiquer Le Pen, je vais écrire un livre, On a tué Le Pen. Monsieur Brignot, savez-vous que Envoyé spécial va diffuser une émission sur le Front National ? Aurait-il fallu que Jean-Marie Le Pen, élu à l'unanimité au précédent congrès, dise à Maigret et à son entourage « Allez-y, braves gens, prenez donc ma place et je me retire sans rien dire ». La conclusion que je tire de vos propos, c'est qu'on reproche à Le Pen de ne pas être parti avec la bande à Maigret. C'est assez curieux. Tous les Français en ont assez de ces divisions et souhaitent qu'on ne parle plus de toutes ces histoires. C'est la France qui est en France. Par pitié, ne rabâchez pas toujours le passé. Il est temps de reconstruire. Il faut être efficace. Que François Brignot et d'autres aient été déçus par Jean-Marie Le Pen est négligeable. Quel est le parti national qui l'emporte de façon écrasante sur le deuxième parti national ? C'est le Front National. Pour moi, être efficace, c'est rejoindre le Front. La politique n'est pas une question de croyance, mais d'efficacité. Vous en connaissez, vous, des divorces qui se passent bien ? Monsieur Brignot, vous avez dit que vous n'écririez plus contre l'un ni contre l'autre. Or, vous avez écrit contre Jean-Marie Le Pen et vous continuez à l'attaquer au micro de Radio Courtoisie. Maigret et ses acolytes sont des traîtres. Le président Mitterrand avait dit qu'il voulait casser la droite pendant 50 ans. Le drame, c'est que c'est le Front qui s'est cassé lui-même. Si vous aviez lu les livres publiés, vous auriez eu des informations sur M. Maigret, notamment le livre d'Éric Zemmour sur le Front. Ne jouez pas les naïfs, vous jouez le jeu des ennemis de la France. Merci d'avoir invité François Brignot et merci à François Brignot de nous parler de Robert Brasillach. Monsieur Brignot, je viens de lire un de vos livres, Mon après-guerre, livre admirable. Vous parlez dans ce livre notamment des rencontres que vous avez eues avec certaines personnalités. Juste après la guerre, quelles ont été les personnalités qui vous ont le plus marqué ? Qu'est-ce qui vous a attiré chez elles ? Merci et admiration d'un jeune auditeur. Monsieur Brignot, a-t-il remarqué l'analogie de gouaille, de ton, d'humour particulier, de physique aussi, de comportement dans son parti, entre Jean-Marie Le Pen et Georges Marchais ? Vous évoquez un ticket Le Pen-Maigret pour les européennes, mais vous semblez oublier les déclarations de certains considérant que Le Pen est un boulet. C'est contradictoire. La droite corrompue a corrompu la droite nationale, car celle-ci était corruptible. Messieurs, une bonne fois pour toutes, nous expliquerez-vous les raisons de la scission du Front National. En vous entendant, j'ai un peu de blues. Pour qui dois-je voter maintenant ? Je ne le sais vraiment pas. Le verre est dans la pomme et il y a beaucoup de Judas dans la droite nationale. Ce que vous dénoncez tous les deux, je le lis actuellement dans l'Omerta française. Non, 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 le Front existe toujours, croyez-moi. Émission superflue, elle apporte de l'eau au moulin de nos ennemis. Que se passe-t-il ? On ne lit pas les messages. De toute façon, je crois que certains sont écartés. Avez-vous vu dans... Attendez, alors ceux que je n'ai pas lus, ils arrivent. Avez-vous vu là... Bon, je peux pas lire, je dirai plus tard.
Voir si j'arrive, moi, si je suis plus doué que vous.
Non, mais c'est parce que je voudrais aller vite et c'est un peu long. Quand dédicacerez-vous vos livres, Monsieur Brignot ? Merci de nous dire la date et le lieu. Merci en quoi ? Encore pour vos livres, notamment, Un électeur du Front, vos livres sur la dernière guerre. Malgré les blessures, mes bons amis, le seul ennemi reste à gauche. Il est vital de ne pas nous disperser dans les querelles internes quand les Guigou, Buffet, Royal et Voynet sévissent dans notre pays. Cher François de Grasse, reprenez le combat contre les Rouges ou, écrivant avec votre cœur et vos tripes, vous excellez. Votre conversation sur l'éclatement du Front est particulièrement intéressante. À vous écouter me revient une pensée que je refoulais depuis plusieurs années, mais qui ressurgit ce soir. À chaque fois que le Front a été en position de percer vraiment, son président a commis un acte aberrant, du rafour crématoire, le discours sur la place du problème juif dans la Seconde Guerre mondiale, comme s'il y avait un refus inconscient ou conscient de la victoire. Le dernier avatar étant l'explosion récente, mettant à bas tout espoir pour plusieurs années. Qu'en pensez-vous ? Alors là, c'est quand dédicacerez-vous vos livres ? Et puis, que pensez-vous de l'article de Gilbert Comte dans Le Figaro d'hier ? Ça, c'est sur autre chose.
Bon. Vous n'avez pas lu Gilbert Comte dans Le Figaro d'hier, François ? Ah bon ?
Émission lamentable.
Est-ce qu'on est obligé d'en penser quelque chose? Je crois que c'est ça.
Ah non, je n'ai pas compris ce qu'il voulait. Mais...
Émission lamentable, je ne dis pas l'autre mot. Vous avez contribué à tuer le front n'a plus besoin de vous. Bravo pour cette émission. C'est la première fois que nous entendons exprimer sur Radio Courtoisie le sentiment que j'ai moi-même ressenti. Pourquoi ne pas répondre directement à chaque message au moment de sa lecture? Parce qu'on n'en sortirait pas, bien sûr. Une fois pour toutes, ce n'est pas la faute à Jean-Marie Le Pen si M. Maigret s'est laissé acheter. Avez-vous lu l'ouvrage de Sophie Coignard et Alexandre Wickham, L'Omerta française, dont on vient de nous parler, qui traite de la loi du silence dans la presse, la politique, etc. Il est bien... Ils viennent d'arriver sur... Il est bien facile de voir qu'à chaque fois qu'on allait gagner une élection, Le Pen sortait une petite phrase, on l'a déjà lu, le détail de l'élection, etc., de Freuler...
C'est pas le même message, c'est un autre message.
C'est un autre message, mais qui dit pareil. Le Pen cherche tout le temps à minorer le front. À ce tarif-là, il ne restera plus du front que Le Pen et son gendre, ils pourront toujours faire une belote. Félicitations de lire les messages favorables au front, malgré vos arguments. Ne serait-il pas possible de nommer un médiateur pour les deux parties? Vive la réconciliation et vive la France. À M. Brignot, pour crever l'abcès, voulez-vous nous parler de l'argent et du Front National? Vous dénoncez le pouvoir de l'argent, pourquoi vous êtes-vous toujours accommodé de l'argent de M. Le Pen? Une auditrice, merci à François Brignot pour son livre. Nous rions en le lisant à travers nos larmes. Et merci pour cette émission. Et le Derdéder, par pitié. Cher Monsieur Brignot, par pitié, recommencez à écrire chaque semaine au moins. Vous nous manquez au quotidien. Les temps se font courts, même pour nous rappeler les événements historiques du passé comme vous le faisiez.
Alors, on a lu tous les messages, hein, c'est clair. Il n'y a eu absolument aucune censure exercée. Je crois qu'on a même, j'avais dit à Victoria, simplement écarté des grossièretés pures, et je crois qu'il n'y en a pas eu.
Il y a juste eu un mot que je...
Un mot que vous avez censuré. Émission lamentable et CON peut-être, non?
Non, mais dégueulasse.
Ah, dégueulasse. Bien, François, un commentaire, des réponses?
Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Je n'ai pas attaqué Le Pen, ni dans mon livre, ni là. Je n'ai pas défendu Maigret. J'ai une position depuis le début qui est simple. Le Front National a un chef... Un chef qui ne voulait pas de second, le responsable et le coupable dans ces problèmes-là, c'est le chef. Je ne sais pas s'il y a eu complot de Maigret, ça n'est pas impossible, je ne le nie pas du tout. Et il est bien possible qu'il y a, bon, on dit Maigret, mais il y a certainement dans l'équipe Maigret des gens qui tirent à eux et d'autres à dire, c'est bien possible, mais... Même s'il y a eu des complots sournois, et pour employer le mot d'un de nos auditeurs, dégueulasse, eh bien, il n'en reste pas... A fortiori, il n'aurait pas fallu céder à ces complots, et il fallait éviter la cassure. Il n'était pas question de suivre Maigret, il était question d'abord de ne pas provoquer la cassure, et je ne rentrerai pas dans les détails, ceux qui connaissent un peu l'affaire me comprendront.
Aussi la ressource de lire votre livre, il y a quand même, je crois qu'on peut, dire que si on veut avoir un éclairage, vous l'avez dit vous-même, votre éclairage voilà, à vous, la façon dont vous avez compris les choses,
Je voudrais, Serge, dire quelque chose. Je pense que dans notre famille politique, on ne pourra que s'améliorer en respectant les gens qui ne pensent pas directement comme vous. Encore une fois, dans cette affaire-là, je conçois très bien qu'il y ait des attitudes différentes. Et j'ai essayé d'expliquer ma position, pourquoi j'avais fait cela, pourquoi j'avais quitté National Hebdo et pourquoi j'avais écrit ce livre. Voilà, c'est tout. Je ne me justifie pas. Je demande aux gens, je l'ai fait en toute honnêteté, et je crois qu'il y a quelqu'un qui dit « Pourquoi avez-vous accepté l'argent de Le Pen ?» Je n'ai jamais accepté un sou de Le Pen, jamais. J'ai travaillé dans des journaux qui appartenait à Le Pen, que j'ai contribué à faire vendre, et j'ai été payé pour mon travail. Et si quelqu'un me doit de l'argent, et si quelqu'un a offert quelque chose à l'autre, c'est moi qui ai offert Le Pen, c'est pas Le Pen qui m'a offert à moi.
Alors, beaucoup de messages disent le Brignot nous manque, on voudrait le lire. Et ils peuvent vous lire maintenant, François, ou ils vont pouvoir vous lire, parce que il reste quelques minutes quand même pour parler de...
J'ai commencé à mettre justement ce journal que on disait que j'avais jamais pu écrire. J'ai fait ce pari stupide. Je rentrerai le 30 avril prochain dans ma... 81e année, hein, c'est dur. Et j'ai commencé à faire une chose que je n'ai pas pu faire depuis 60 ans que j'écris, ou peut-être davantage. J'ai donc fait, je lui ai fait un journal. J'ai écrit, et j'ai fait un journal qui s'appelle le journal de l'an 2000. J'en ai donné, il va paraître en livre à la fin de l'année. Je l'écris au jour le jour et mois par mois. Il sera prêt. Et il paraîtra sans doute dans le, au moins si le bon Dieu me prête vie, si patati patala, et patin et couffin, et il paraîtra au mois de janvier 2001. Bien. Avant, je donnerai des bonnes feuilles à Martin Pelletier qui fait un journal, le quotidien de Paris,
le quotidien de France,
sur Internet. Je donnerai tous les samedis aussi des bonnes feuilles. J'offrirai, puisqu'il est question d'argent, ce sera des choses bénévoles, entièrement bénévoles. J'offrirai aussi des bonnes feuilles tous les samedis à présent, à partir de la semaine prochaine. Et je vais annoncer aussi une petite nouvelle que M. de Becketch ignore. Je lui donnerai aussi, dans le courant de l'année, une dizaine d'articles et spécialement écrit pour lui, bénévolement. Voilà.
Merci François, c'est une bonne nouvelle, double bonne nouvelle.
Parce qu'il est bien certain qu'un écrivain politique ne doit pas gagner d'argent avec sa plume.
Non. Les hommes politiques
doit-il gagner de l'argent? On ne le sait pas. Doit-il se prostituer? À mon âge, serait difficile.
J'allais vous dire.
Alors doit-il voler? Que faut-il faire? Mais quand on écrit, Quand les gens ont plaisir à vous lire, eh bien, s'il y a quelque chose de moche de vendre son travail, eh bien, moi, je trouve pas que ça soit moche. Et j'ai toujours été content de vivre et d'avoir fait vivre les miens avec simplement une plume depuis plus de 50 ans, malgré la prison, malgré les procès, elle est encore là.
Merci François.
Excusez-moi, il y avait des messages qui étaient en dehors de la bagarre Front National.
Oui, c'est pas une bagarre, c'est un exposé.
Non, mais entre les bagarres entre les auditeurs qui disaient moi c'est M. Le Pen, les autres c'est M. Legret.
Mais ça prouve qu'on a un éventail, un auditorat quand même assez large, hein, puisqu'on va quand même de la gauche de Le Pen à la droite de Maigret. C'est un peu. Mais il y a qu'on couvre la totalité du spectre.
Là, vous avez des messages, par exemple, en Autriche, la droite nationale s'allie à la droite classique. Il faudrait bien en faire autant en France.
Personnellement, j'en vois pas l'utilité, mais enfin, c'est mon opinion et je la partage.
Voilà, c'est un beau sujet de discussion. Voilà. Et on a bien compris que dans le Front National, on pouvait très bien être pour une alliance avec les partis de droite, ou bien avoir, au contraire, une course absolument unique. Ne être dur, être fermé, c'est un débat politique, ça existe, on peut discuter cela sans être traître, félon, ceci et cela.
Corrompu, renégat.
C'est en tout cas ce que je pense.
Ce qui nous intéresse ce soir, c'est le dialogue Brignot-Serge de Becketch. L'opinion des auditeurs est secondaire. Faites-nous un peu du Lugan.
Voilà, alors c'est ça.
Faites du Lugan.
Quand on lit les messages, on se fait engueuler. Quand on les lit, on se fait engueuler. De toute façon, on se fait engueuler. Mais ça ne rapporte pas en plus. Non, franchement.
C'était sympa. Moi, je te trouve sympathique. Même malgré les lettres, je comprends très bien que les gens ne sont pas d'accord. C'est pas...
Je ne comprends pas comment il se fait que le gouvernement actuel n'arrive pas à bout de la racaille actuelle dans les lycées.
Nous non plus, on ne comprend pas.
Si j'étais le gouvernement, je sais bien ce que je ferais. D'ailleurs, vous remarquerez une chose, c'est que il y a une. Alors, j'ai trouvé une explication. François, vous aimez bien ce que vous en pensez. Vous avez remarqué qu'il y a un glissement du vocabulaire. Avant, on disait qui. Puis après, on a dit les jeunes. qu'après on a dit les adolescents, et maintenant on dit les mineurs. Et là j'ai enfin compris pourquoi ils emploient le mot les mineurs, c'est qu'il y a une autre façon d'appeler les mineurs, on les appelle les gueules noires. Ok. Hein? Et je trouve que ça, c'est quand même un peu dangereux, ce petit jeu-là. Quand il y a une agression dans un lycée, un racket, un viol, un vol, on nous dit c'est un mineur. Mais attendez.
Sur ça, j'ai une histoire que je tiens de sources sérieuses. Vous avez suivi le drame culturel sur la bouse.
Ah oui.
Et maintenant, c'est une mobilisation autour de ça. Parce que le problème est tout à fait dramatique. Le ministère de la Justice, le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur, le MRAP, l'écran, le comité de l'éthique se penchent sur le mystère. Deux thèses sont en présence. Est-ce que c'est le nommé Labouze qui a dit « mort aux vaches » ou est-ce que c'est les flics qui l'ont traité de la bouse de vache? Et ça, c'est un... Voilà.
C'est un vrai problème.
C'est un problème.
Le pays...
problème humain.
Oui, pays humain. Le pays est dans l'expectative. Et c'est comme ça que ça s'appelle. T'as encore marché dans l'expectative. J'espère que c'est du pied gauche.
Allez, dans le cadre du rajeunissement des délinquants, je suis institutrice, j'ai 42 ans, j'enseigne à la maternelle depuis déjà longtemps. Les enfants ne nous écoutent plus. On n'a plus d'autorité sur eux. Il m'est arrivé de critiquer les attitudes que je trouvais antipédagogiques à l'école. Ça m'a coûté mon inspection.
Oui. C'est
donc
coup
bien
de hoche.
Vrai que les instituteurs sont obligés de se taire.
Alors, François, je donne quand même, bien que je pense que ça va vous attirer des sarcasmes de la part des auditeurs qui s'étonnent qu'on puisse vendre un livre, je vais quand même donner l'adresse à laquelle on se procure.
J'ai des petits-enfants qui font de temps en temps une casse de la croûte,
oui,
de moins en moins, mais il faut quand même...
Oui. Alors, donc le livre s'appelle « Jean-Marie m'a tué, chronique du mauvais temps ». Et il est en vente, on est obligé de dire le mot un peu obscène, mais enfin, auto-édition FB, F comme François, B comme Brigno, l'adresse c'est 21 rue Mademoiselle.
Mademoiselle, 75015 Paris. Le prix est, c'est un livre de 350 pages, le prix est de 125 francs plus 25 francs
de port.
De port.
Franco de port, 150 francs.
Et
il y a très beau dessin de Conque.
20, oui.
Oui, alors il y a un coup de publicité mensongère, c'est-à-dire que la couverture annonce 21 dessins, je crois qu'il n'y en a que 20 dans le livre.
22.
Ah, il y en a un de plus. Ah, je sais pas, enfin, il y a une histoire comme ça, je crois que... je balance, moi.
Remarque, je risque rien avec Pont parce qu'il est une gentillesse.
Ah oui, ça je veux dire. C'est vraiment la crainte. Et il collabore également au quotidien de France de Pelletier, Brigno et Conque, c'est les trois signatures.
Mais il dit Conque, je sais pas si ça intéresse les gens, il dit que je suis un homme tellement faible, dès qu'on me demande quelque chose, je suis foutu, je dis oui. on n'est pas que des vaches ici.
J'avais gardé un message pour la fin. Qu'on me reproche de ne pas avoir lu, mais je l'avais gardé pour la fin parce qu'il me paraît. Radio Courtoisie devrait lancer une pétition pour rassembler à nouveau les partis du Front et faire la jonction absolument nécessaire avec le RPF. N'oubliez pas aussi le MMTC, MM. Car le jour venu de sauver la France, on ne pourrait compter que sur
le MMTC, c'est le mouvement des citoyens.
Le mouvement, c'est ça. Sur l'union des souverainistes.
Ah oui.
Voilà.
On va faire, comme dirait Philippe de Saint-Robert, on va faire la farandole.
Et puis pour faire plaisir à Serge de Beketch, tout mon espoir est dans le seul candidat possible, Louis XX de Bourbon.
Louis des Croix des Bateaux. Ah non, Louis XX. Merci François Brigno, et on va vous accompagner avec quelque chose qui évoquera votre enfance si proche. Alors je reçois... Monsieur Georges Clément, qui est membre de La Voix des Français et qui a créé... Oui,
je peux le préciser, monsieur Beketch.
Bien sûr, hein.
Bon, je suis donc vice-président de La Voix des Français, Renaissance 95, dont je rappelle que la vocation est d'essayer de lutter contre les conséquences de l'immigration et de trouver des solutions. Et alors, à l'intérieur de La Voix des Français, au mois de janvier dernier, il y a un an d'ailleurs, le comité d'honneur avait décidé, sur ma suggestion, de créer ce que nous appelons un organe d'action depuis, c'est-à-dire un certain nombre d'équipes qui ont un but et un seul, détecter toutes les personnes, soit individuellement, soit en groupe, car il nous arrive d'avoir des groupes, ou même des quartiers dans ces, en difficulté, qui sont soumises aux persécutions, ou tout au moins aux infractions et incartades de populations ou de jeunes gens appartenant à ces populations immigrées qui habitent leur quartier ou leur région, et de faire le recensement des dégâts qu'elles ont subis et de leur porter assistance de deux manières. La première manière, c'est notre but, c'est de les soutenir pour qu'elles portent plainte et, si c'est possible, lorsqu'il y a défaillance des pouvoirs publics, ce qui est souvent le cas, d'attaquer l'État en réparation et éventuellement les ministres devant la Cour de justice de la République. Donc alors, voilà la vocation de SOS Spoliation et Violence.
Pour la circonstance, et pas seulement pour la circonstance, en général, vous êtes accompagné de votre avocat, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent, puisqu'ils l'ont déjà entendu dans cette émission, pour quelque chose qui n'a rien à voir. Alors c'est Maître Philibert Lepi.
Voilà.
Qui assure en quelque sorte le suivi juridique.
Voilà, je vais juste terminer l'organisation d'un comité et le rôle de Philibert va apparaître en pleine lumière, si vous me permettez. Donc, pour travailler, nous sommes organisés en comités. Les comités sont, il y a le comité national dont j'ai la présidence, il y a des comités régionaux, en région parisienne il y a un comité régional et des comités départementaux. Chaque comité est organisé de la façon suivante, il y a une triplette d'animation au sens de la gestion du terme qui est le président, un secrétaire et un responsable pour l'organisation, et on a deux commissions qui agissent et qui travaillent, une commission judiciaire, il y a donc une commission judiciaire nationale dont Philibert Lepi est le responsable, et il y a une commission de sécurité parce qu'on a des problèmes de sécurité à régler. Voilà. Donc Philibert Lepi est responsable de la commission judiciaire nationale.
Maître Lepi, quel est le... Parce que, en fait, votre activité, elle est quand même sujette. C'est délicat. Enfin, l'activité de cette société présente un aspect délicat. C'est que, bien évidemment, il y a un moment où vous êtes amené à commettre ce qui apparaissait dans un passé récent, et peut-être encore aujourd'hui, comme le crime irrémissible, c'est-à-dire le lien entre deux choses qui sont la réalité de l'immigration et la réalité de l'insécurité.
Alors là, je vous réponds tout de suite par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui a été rendu donc de la Cour d'appel de Paris, donc trois magistrats, un arrêt dont je vais citer un considérant. Et là, je lis l'arrêt. Considérant toutefois que le débat sur les incidences sociales d'une immigration massive relève de la liberté d'expression, que des opinions relatives à l'ordre public, à la délinquance, à la sécurité peuvent être formulées dans le cadre d'un tel débat, que ces faits s'inscrivent dans le cadre d'une polémique traditionnelle sur la question de l'immigration et de l'insécurité. Alors là, je dirais tout de suite, Monsieur Serge Lebecquetch, que nous nous plaçons dans la plus pure légalité et dans la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris. Nous voulons que on puisse parler des incidences sociales d'une immigration massive. Et ce débat relève, selon la Cour d'appel, de la liberté d'expression. Que des opinions relatives à l'ordre public, à la délinquance et à la sécurité peuvent être formulées dans le cadre d'un tel débat.
Bien. Donc, il n'y a pas de risque.
Il n'y a pas de risque. On peut en parler aujourd'hui. Vous avez,
je prends mes précautions parce que moi, vous savez, je sors d'en prendre. J'en prends tout le temps. Alors, j'ai un peu le cuir solide, mais je ne voudrais pas vous entraîner dans des aventures juridiques qui sont finalement pesantes et peu intéressantes sur le plan financier. Je ne vous le cacherai pas. Donc, cette chose étant posée, quels moyens juridiques? D'abord, quels moyens, avant des moyens juridiques, quels moyens, en tant qu'association, quels moyens avez-vous de mener à bien l'objectif qui est le vôtre?
Eh bien, écoutez, on s'est posé la question dès le départ. Nous avons le rôle des comités, justement, et c'est le premier moyen sont les comités. Nous avons, dans la région parisienne, c'est en plus un peu particulier, donc je vais le dire, nous avons d'un côté des dépliants, que nous avons fait. Notre problème est d'informer les victimes, hein, qu'elles peuvent s'adresser à nous pour que l'on monte ensemble des dossiers. Donc, notre problème est de les toucher. Pour les toucher, nous avons le moyen des médecins et des urgences des hôpitaux avec lesquels nous avons des rapports, en tout cas pas tous, mais certains dans la région parisienne, et auxquels nous donnons un dépliant sur lesquels nous indiquons un numéro de téléphone. Je vais le donner.
Hein, ouais,
un numéro de téléphone où toute personne qui a été agressée, qui a subi un préjudice corporel ou matériel, peut appeler pour que nous la contactions et avec elle nous montions un dossier, si le dossier correspond à notre action, bien sûr. Car nous ne sommes pas légitime défense, je le dis.
Oui, je préparais à vous poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas de double emploi avec légitime défense?
Non, parce qu'on refuse le double emploi. Hein, si on est dans un cas strict de légitime défense au sens propre et hors tout contexte de tout... eh bien, c'est légitime défense qui peut s'en occuper et nous, non. Le numéro de téléphone auquel on peut appeler, qui est un répondeur, hein, je le dis tout de suite, car nous ne prenons pas de messages de vive voix, nous rappelons. C'est le 01 42 67 19 92. Alors il faut le noter parce que ce n'est pas le même que celui de La Voix des Français Renaissance 95, qui a son numéro par ailleurs. Hein. C'est un numéro spécial. Donc 01 42 67 19 92. Alors, les gens nous appellent. Nous avons, depuis que l'on a mis en place ce répondeur dans la région parisienne au mois de début octobre pratiquement, nous avons eu une cinquantaine d'appels. Et nous avons donc constitué probablement là-dessus une dizaine de dossiers qui sont intéressants.
Alors, d'après ces appels, il doit y avoir des grandes lignes qui se dégagent du problème que vous avez décidé de prendre à bras le corps. Alors, quelles sont ces grandes lignes?
Bah, écoutez, je sors d'une grande ligne cet après-midi, je ne dirai pas chez qui quand même parce que la personne est déjà suffisamment ennuyée. En pratique, nous avons affaire à soit des personnes privées, c'est-à-dire des familles toutes simples, comme celles que je viens de voir, et quand je dis toutes simples, le mot n'est pas, c'est pas une image, qui sont persécutées, qui se trouvent être les dernières familles françaises d'une tour, et qui sont persécutées, c'est-à-dire que l'on tente de violer dans l'escalier leur fille attardée mentale, que l'on brûle la voiture une fois, deux fois, trois fois, parce qu'il y a eu des rachats du fils, qu'on le bat pour l'obliger à vendre de la drogue, que la famille a fini par être logée sur les conseils de la police elle-même dans des hôtels un peu plus loin que l'endroit, parce qu'on vole les clés de la personne et de la famille pour rentrer chez elle à toute heure du jour et de la nuit. Et pour être passé moi-même là-bas, pour être allé voir, je peux dire qu'on est accueilli dans le hall d'entrée par une haie d'honneur de jeunes gens qui sont là toute la journée et qui insultent tous ceux qui passent. Nous l'avons entendu. Voilà. Alors ça, c'est pratiquement le lot.
C'est des jeunes gens, vous voulez dire des mineurs.
Oui, voilà.
Des mineurs.
Hein, c'est d'accord. Ça. Et donc c'est le lot de... C'est la base des familles persécutées. De toutes sortes. Bon. Alors après, nous avons des commerçants agressés. Philibert a eu un cas récemment, le restaurant.
Hein. Pardon, je voudrais revenir sur ce que vous venez de nous dire. Parce que je mets du temps à réagir, parce que même, ça fait quand même 35 ans que je fais du journalisme, ça fait 35 ans que j'entends des histoires comme ça, mais là, c'est quand même un peu en dehors de l'épure habituelle. Quoi. Il s'agit d'une famille qui vit dans une tour, dont la fille est handicapé mental, harcelé par des violeurs,
tout à l'heure devant nous,
dont le fils...
C'est un cas type, parce que sur ce cas, vous avez... Tout s'est passé. Il y a eu un trafic de stupéfiants qui a été organisé. On a forcé le jeune à cacher un ballot de stupéfiants sous son lit. On a essayé plusieurs fois de commettre des agressions sexuelles vis-à-vis de la jeune fille handicapée à 80%. Et... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une demande de relogement par l'assistante sociale, appuyée par la 6e brigade des stupéfiants qui s'est occupée de cette affaire. C'est une lettre qui a été envoyée, et nous en avons la copie, au sous-préfet de la Haie-les-Roses. Donc une demande de relogement en urgence, aucune réponse du sous-préfet. Alors que... Il y a une demande de l'assistante sociale et de la brigade des stupéfiants.
Oui, si un jour le père de cette famille prend son fusil et rectifie un des mineurs Il ira directement en prison sans passer par la case départ.
Absolument. Là, on rejoint le cas de Vauvert, alors, qui est une autre affaire dans une autre région où on a un comité qui s'en occupe. À Vauvert, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les gens ont réagi. Il y a eu deux qui ont tiré en situation d'émeute. Les deux sont en prison. Et nous en défendons l'un des deux en appel le 11 avril. Et absolument.
C'est les gueules noires aussi. C'était des gueules noires aussi.
De qui parlez-vous? De
De Vauvert.
À Vauvert, oui. C'était des braves gens qui ont tiré.
Oui, les tireurs, mais les...
Les autres étaient, des mineurs.
Des mineurs.
C'est ce que vous voulez
dire. Non, mais c'est pour pas répéter. Mineurs, on dit mineurs tout le temps, il y a des synonymes, on pourrait...
Oui.
Donc, gueules noires, c'est un bon synonyme pour mineurs. Ça appartient au vocabulaire courant, quoi.
On est dans une situation où il y a défaillance de l'ordre, des services d'ordre, sur directive ou non. On ne sait plus. Pourquoi la gendarmerie intervient-elle? Pourquoi n'intervient-elle pas? Est-ce que le ministère a donné un ordre ou non? J'ai l'impression qu'il arrive que les gendarmes ou les policiers, dans le cas Vauvert, sont des gendarmes, arrivent à être...
C'est pas le même ministère dans ce cas-là.
Non, en période de paix, sont-ils pas sous tutelle du ministère de l'Intérieur? Je n'en sais rien, peu importe.
Je suis
pas
spécialiste. Les gendarmes sont des militaires. Ils obéissent à M. Ricard.
Mais ce que je veux dire, c'est que je me demande s'ils s'auto-censurent pas maintenant.
Alors, il faut bien savoir qu'on commence à avoir un problème de maintien de l'ordre dans le sud de la France, parce que pour prendre, après l'exemple de Vauvert, l'exemple d'une petite ville de France,
à Montauban,
la CRS qui était chargée du maintien de l'ordre à Montauban avait été déplacée par ordre du ministère de l'Intérieur en Pays Basque. Donc lorsqu'il y a eu les émeutes de Montauban pendant 2 jours, le sous-préfet et le préfet se sont trouvés face à une vacance des forces de l'ordre, et il a fallu racler à toute vitesse les commissariats, distribuer des boucliers et des matraques à 50 fonctionnaires de police qui ne sont pas formés pour le maintien de l'ordre, et on les a envoyés directement lors des émeutes de Montauban, et ça s'est assez mal passé.
Oui, parce que vous avez 60 émeutiers, dit-on, en face, et eux étaient 50. C'est-à-dire que le préfet du Tarn-et-Garonne a trouvé pour défendre sa préfecture, pendant une nuit, 50 braves pères de famille, probablement déjà bedonnants, qui étaient des vigiles ou des services urbains.
Vous avez quelque chose contre les gens bedonnants?
Non, rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient plus envie de courir toute la nuit contre une bande qui a déchaîné les incendies.
Voilà, à Vauvert, c'était la même chose. Il a fallu 2 nuits d'émeute pour que le préfet rameute tous les gendarmes mobiles du département et les envoie à Vauvert pour maintenir l'ordre. Voilà. Donc on est en face maintenant d'un problème de maintien de l'ordre.
Les gens qui vous appellent, qui vous appellent au secours, quel est leur état d'esprit? Est-ce qu'ils sont désespérés?
Désespérés.
Mais est-ce qu'ils sont un peu gonflés? Est-ce qu'ils disent qu'il y en a marre, on va finir par...
Alors, c'est une excellente question. C'est mon souci. Je dois dire très franchement, d'abord il y a une évolution quand même, faut la noter, je donnerai des chiffres, il y a une évolution. Mais, en province surtout, ils sont tellement écrasés par le quotidien régional et les radios officielles, c'est-à-dire France Inter, Europe 1, etc., écrasés par les interdictions de s'exprimer, qu'ils arrivent à souffrir en ne comprenant pas qui les fait souffrir. Je leur ai dit une fois à Vauvert, mais au fond, vous arrivez à leur donner un nom, à vos ennemis qui vous font quand même beaucoup de mal. Là, ils existent, ils sont physiques ou sont des ectoplasmes? Ils ont du mal. Et il y a une évolution tout doucement qui se passe. Et on commence à avoir des réactions. Mais je dois dire que
s'ils ne voient pas, vous pourriez peut-être, au lieu de vous occuper d'assurer leur défense, vous pourriez peut-être faire une collecte pour leur offrir des lunettes.
Je crois qu'on se rend à compte à Paris, et nous en plus avec Radio Courtoisie, de l'état de l'information dans le reste du pays et de l'état de la chape de plomb qui est sur les consciences. C'est ahurissant.
Attendez, on est dans un pays quand même, moi, je sais pas, tous les ans on célèbre le 11 novembre, on célèbre le 8 mai, et donc on est dans un pays qui, il y a 50 ans, s'est libéré de l'occupation nazie, nationale, socialiste. Les hordes hitlériennes avaient déferlé sur la France, elles tenaient le pays sous une botte d'acier, et on les a foutus à la porte. Alors, à mon avis, je sais pas, je m'aventure peut-être un petit peu, mais un pays qui est quand même comme ça, soutenu par un esprit de résistance aussi puissant, devrait être capable de régler le compte à quelques mineurs à coup de botte dans le cul. Parce que, c'est à mon avis, c'est de cet ordre-là le problème, non?
Serge de Bekech, c'est extrêmement difficile, et je vais vous donner un exemple de la situation, puisque, et là je cite, c'est le Monde du 24 décembre, Saint-Sylvestre les mesures sécuritaires contestées par des associations. Alors, il faut bien savoir que pour la nuit de la Saint-Sylvestre, le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police avaient prévu une organisation policière, je dirais, un peu plus importante que les autres jours de l'année. Et une dizaine d'associations, 18 exactement, parmi lesquelles la Ligue des droits de l'homme, le Justi, le MRAP, le syndicat de la magistrature, Médecins du Monde, ont demandé la levée de l'un des volets de ce dispositif de sécurité pour prévenir d'éventuels troubles. C'est-à-dire que la police essaye de prendre des mesures pour le maintien de l'ordre, et vous avez un certain nombre d'associations qui demandent la levée de ces mesures.
Mais enfin, moi je ne suis pas content personnellement, mais enfin, c'est un fait que ce pays, il faut en plus lire ce pays, c'est interdit maintenant. Notre pays est en démocratie. Or, que je sache, tous les gens dont vous venez de parler, là, la Ligue des droits de machin, les logistiques, les trucs, les LICRA, les MRAP, ce n'est pas des élus. Ils ne représentent qu'eux-mêmes. Il y a en France des élus, et la force publique, elle est sous la tutelle d'un ministère, d'un ministre, qui s'appelle Monsieur Chevenement, et qui est, lui, un élu du peuple. Donc, à mon avis, les forces de l'ordre doivent obéir à la représentation nationale, enfin, c'est le système démocratique, encore une fois, ça ne me plaît pas, mais c'est comme ça, et pas à une poignée d'agitateurs patentés qui sont constitués en pseudo-organisations auto-proclamées et représentatives d'elles-mêmes.
Tout à fait. Alors,
on leur dit à tous ces gens-là, allez vous faire dorer. Voilà.
Et nous avons, enfin, le président du comité a fait un communiqué de presse dans lequel nous avons dénoncé cette situation et nous avons manifesté, je dirais, notre reconnaissance à tous les fonctionnaires de police qui ont passé la nuit de la Saint-Sylvestre à assurer notre propre sécurité. Et c'est d'abord à ces gens-là que nous pensons d'abord. Contrairement à ces 18 associations qui pensent... Oui. À ceux qui voulaient brûler des voitures.
Je voudrais faire remarquer quand même, Serge de Becquetch, que c'est vrai que les policiers obéissent aux autorités démocratiques, mais ce sont les autorités démocratiques qui obéissent un peu, ou tout au moins, qui discutent beaucoup avec les organisations dont nous venons de parler.
C'est bien ce que je voulais dire. Voilà. C'est bien
ce que c'est ça le chemin.
D'ailleurs, ils y appartiennent en général.
Hein?
Ils y appartiennent. Je crois que la plupart de nos ministres sont membres du MRAP, de SOS Racisme, de la LICRA, du Justi, du machin.
De Médecins du Monde.
Médecins du Monde. Voilà. Donc je ne vois vraiment pas ce qu'il a foutu dans cette histoire. Enfin, peut-être qu'on peut imaginer. Si, c'est vrai que quand on empêche les gens de se taper sur la gueule, ça embête les médecins, ça leur fait perdre la clientèle.
Je voudrais quand même signaler que SOS Racisme est quand même attaqué dans le midi par le défenseur de l'un des deux accusés de Vauvert, Joël Elie, pour subornation de témoins. Car comme ils ont décidé de faire de ce procès futur un procès raciste, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils prouvent que Joël Elie avait depuis des années envie de tuer un jeune arabe, que c'était une obsession chez lui, ils ont demandé à des gens de la cité, de déclarer à la gendarmerie qu'effectivement ils avaient entendu Joël Elie dire ses insanités depuis des années, ce qui n'était pas vrai. Et deux ou trois d'entre eux ont eu peur et l'ont dit finalement à la gendarmerie, ce n'est pas vrai, on est venu me voir.
Menteur et lâche.
Et l'avocat de Joël Elie a attaqué donc en correctionnel pour subornation de témoins SOS Racisme. C'est quand même très beau, je trouve, que SOS Racisme soit attaqué pour subornation
de témoins. C'est choquant. Moi, ça me choque parce que je suis un inconditionnel des SOS Racisme. N'étant pas raciste, je trouve dommage qu'on en soit réduit à attaquer un mouvement comme SOS Racisme qui a rendu des services immenses à la démocratie et à la République. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça.
Parfait, comme disait
Pascal. Nobody's perfect. Voilà. On a encore un petit bout de temps. Bon, alors, vous avez un message ?
Deux minutes. J'ai deux questions. Une auditrice félicite Monsieur Clément, nous sommes tous victimes de l'immigration et elle voudrait bien connaître, si vous connaissez l'évaluation de la charge qu'elle représente, sans compter les graffitis et les dégradations.
Oh là, je sais qu'on a fait un colloque sur ces problèmes, du coup, on parle de 387 milliards de francs. Bon, mais ceci dit, il faudrait que j'aie mes dossiers là, je ne peux pas répondre. Ça.
Je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est assez curieux, c'est que. On se plaint d'immigration, mais là il y avait un immigré par exemple qui était reparti. Comment il s'appelle? Si Ahmed Rezala,
Ahmed Rezala. Ahmed
Rezala. Il est parti au Portugal et on va le rechercher maintenant. Oui. On veut absolument le faire revenir en France. Personnellement, j'en vois pas l'utilité. Il est très bien au Portugal, qu'il le garde.
C'est un excellent cas car ils ne sont rentrés que depuis 95.
On fait la coupure technique et je vous redonne la parole.
D'accord.
Donc je reçois dans cette deuxième partie Georges Clément, qui est vice-président de la Voix des Français et qui s'occupe avec Maître Philibert Lepi d'une partie de l'activité de l'association La Voix des Français qui concerne l'insécurité et la réponse à apporter, les réponses pratiques sur le terrain juridique l'assistance aux victimes, donc réponse à apporter à cette insécurité. Nous avons des questions, Victoria, si vous voulez les lire.
Pourriez-vous avoir l'amabilité de donner la date du jugement de cour d'appel dont vous avez lu un considérant ?
Oui, alors, il faut dire, Maître Lepic, c'est l'appel d'un procès qui était intenté à présent en la personne de Char, dessinatrice de quel talent d'ailleurs, à présent, et de Jean Madiran, alors directeur de la publication de présent, pour une affaire de dessin, etc. Ouais. Donc,
alors, c'est l'arrêt de la Cour d'appel de Paris de la 11e chambre, section B, qui a été prononcé publiquement le jeudi 18 novembre 1999.
Il y a un numéro d'ampliation ou...
Un numéro de dossier 2495/99. Ceux qui veulent se le procurer écrivent à la Cour d'appel de Paris.
Voilà. Très bien. C'est public et la citation en est autorisée.
Avez-vous lu le livre de Madame Vasseur, docteur de la santé, qui évoque la proportion d'immigrés qui migraient dans la population carcérale, plus de 65%.
Oui, alors ma première réaction quand on me parle du livre du docteur Vasseur, c'est d'abord de penser aux victimes des gens qui sont en prison. Et deuxièmement, c'est d'évoquer les noms qui se trouvent sur une plaque de bronze à la direction centrale de l'administration pénitentiaire et qui portent le nom des gardiens de l'administration pénitentiaire qui sont morts en fonction. Voilà mes réactions sur le livre de Madame Vasseur.
Je pourrais répondre quand même sur la population carcérale, c'est peut-être à la santé, mais à Villeneuve, les Maglones, où nous avons des personnes incarcérées dont nous nous occupons, c'est-à-dire à Montpellier, elle est de l'ordre de 80%.
Oui, et dernier point, il faut savoir que l'administration pénitentiaire pratique une ségrégation au sein des établissements pénitentiaires, puisqu'on ne met jamais en contact les détenus d'origine ethnique différente.
Autrement dit, si vous voulez pas avoir d'ennuis avec les mineurs, il vaut mieux être en prison que dans une cité de la banlieue.
Oui, enfin, c'est une façon de parler, parce que pour revenir à notre Joël Elie qui est incarcéré et Raymond Plat, Joël Elie est au secret, parce que depuis qu'il est rentré, sachant qu'hélas, pour se défendre, il a tiré et qu'il a tué un jeune émeutier qui était d'origine maghrébine, il a eu une tentative d'étranglement, la mâchoire abîmée à deux ou trois reprises, et il est en isolement pour éviter d'être tué. Donc il faut quand même le savoir. Hein. La situation en prison, dès lors qu'on s'est rebellé contre une émeute et qu'on s'est défendu, devient grave si celui que l'on a attaqué est d'origine pour la Maghrébine, d'ailleurs peut-être autrement. Mais enfin là, le problème est dans le sud.
Le racket, à propos du racket que certains Africains font dans le métro...
Mineurs. Certains mineurs.
Excusez-moi, j'avais mal lu. Oui. Quête, signature pour les enfants du Rwanda. Est-ce qu'une plainte peut relever de votre organisme?
Non, parce que là, je dis très franchement, là, il ne me semble pas qu'il y ait agression, enfin, sauf s'ils sont violents avec les gens pour les obliger à signer, mais nous, on s'occupe des vraies victimes et des vraies émeutes et des vraies agressions organisées. Hein,
ne pas... plus. Enfin, et... le racket, je trouve le mot.
Le mot n'est pas bon.
Je vois pas quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit, est-ce que vous voulez donner de l'argent pour les enfants du Rwanda? C'est pas du racket.
C'est pas du racket.
Si vous lui répondez non, le problème est réglé.
Voilà. Oui, le problème, c'est ce qui peut se passer après le non.
Jamais eu de problème.
Peut-être une pétition.
En vertu du vieux principe de Audiard, selon lequel quand les gens de 100 kilos disent des choses, les gens de 60 kilos ont tendance à les écouter. Mais non, je pense que franchement, ils sont pas plus agressifs que ça. Il suffit de dire non. Je ne donne d'argent que pour les enfants de Basse-Bretagne.
Sur Radio Courtoisie, Monsieur Clément a fait savoir qu'il avait une carte des églises cédée pour être transformée en mosquée. Peut-il le confirmer et où peut-on se procurer cette carte?
Je l'ai effectivement. Il m'a envoyé ce mot à Jean-Gilles Marie Hérakis la semaine dernière, vendredi, parce qu'il doutait. Oui, nous avons une carte, la Voix des Français, nous l'avons.
Hein. Malia doute beaucoup. C'est un homme de doute, parce qu'il est intelligent, donc l'intelligence est la sœur du doute.
Je doute dont je suis. Voilà. Enfin, grosso modo. Donc, je lui ai envoyé ça parce que nous avons cette carte. C'est la carte de l'ensemble des mosquées, c'est-à-dire avec les intensités par région, et en particulier de celles des lieux de culte musulmans qui ont été offerts par certains évêques et certains diocèses. Donc ça existe, c'est vrai. Voilà.
Et alors pour Monsieur Clément, si je comprends...
La carte des mosquées offertes à l'Église catholique dans les pays arabes, vous l'avez pas?
Non, celle-là on n'a pas, non.
Elle est vite faite, non? Je vous la dessinerai.
Elle est très vite faite.
Je vous la dessinerai.
Donc, message pour Monsieur Clément, si je comprends bien votre action, elle équivaut à dire « j'ai confiance dans la justice de mon pays ». Qu'en pense votre psychiatre habituel?
C'est joli.
Alors, c'est le psychiatre qui répond ou l'avocat?
Moi, je vais vous répondre. Je vais vous répondre très précisément à la personne qui a posé cette question. Et je lui dirais que j'ai été félicité personnellement par le procureur de la République lorsque j'ai été plaidé à la au tribunal de Nîmes. Et le procureur avait requis une peine de 8 mois de prison contre M. Quinonero qui avait eu le malheur de tirer un coup de fusil en l'air alors que les gens venaient l'agresser et avaient commencé à démolir sa porte. Et c'est la première fois dans mon expérience d'avocat qu'un procureur de la République me félicite à la fin de l'audience pour ma plaidoirie.
Mais pourquoi il requérait alors contre... Il aurait pu s'en remettre à...
Il aurait pu s'en remettre à ma plaidoirie ou...
Je veux dire, j'ai le sentiment que il faut dire les choses comme elles sont et qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays qui attendent que certains les disent. C'est aussi
dans
simple
notre,
que ça.
Dans notre pays, je vous en prie.
Oui, pardon, en France. Ah, disons en France, voilà. Dans ce qui est encore la France. Voilà. Je crois que c'est aussi simple. Et quand je parlais de changement, je dois dire qu'il y a des changements. Il y a en ce moment une pétition qui circule partie d'un vice-président du Conseil Général de l'Isère, qui est probablement pas quelqu'un d'extrême droite, et qui est un maire en
ça
même
saurait.
Temps. Ça saurait. De Charvieux-Chavagneux, et qui a recueilli 10 000 signatures dans son département qui est en train de la faire circuler dans la Loire et dans la région de Lyon pour demander un référendum sur l'immigration parce que ça ne peut plus durer, dit-il. D'autre part, en même temps, puisque j'en ai parlé à Montauban à des commerçants qui se sont ligués pour se défendre, eux ont recueilli 17 000 signatures dans ce domaine. Donc, j'ai le sentiment net qu'il y a en ce moment un basculement d'une certaine partie de la population qui commence à prendre conscience des dangers. Et je voudrais une dernière, alors, dernière chose, c'est qu'hier j'ai entendu le muezzin en attendant mon taxi.
Le muezzin,
oui, Gare de l'Est. Gare de l'Est. Un muezzin, Gare de l'Est.
Voilà. Ben oui, mais Gare de l'Est, c'est quand même très, c'est l'Orient. Hein,
voilà, oui, absolument. Alors, mais je voulais le dire parce que, bon, c'est un fait.
Pour en terminer, je crois qu'il faut lancer un appel et nous appelons donc tous les Français à rejoindre nos comités SOS Violence et Spoliation dans toute la France.
Oui.
Il vous suffit donc d'écrire à la Voix des Français, Renaissance 95.
Boîte postale 200, boîte postale 23 92 204 Neuilly-sur-Seine, CEDEX.
Boîte postale 23
92 204 Neuilly-sur-Seine, CEDEX.
Tout ça, toutes ces adresses seront dans le livre, voilà. Le Minitel du Libre Journal, 3615 Libre Journal, bien entendu.
Je vais demander, mais ça c'est pas très joli, tout à l'heure François Brignot n'osait pas dire qu'il vendait ses livres, alors moi je dois dire que nous avons pour les actions judiciaires de la Voix des Français un fonds particulier qui s'appelle le Fonds National de Soutien aux inculpés, et qui nous sert d'ailleurs là à défendre Raymond Plat, dont maître Jean-Marc Varro va assurer la défense en appel, et d'autres ailleurs, et pour ça on a besoin d'argent. Alors ils nous ont déjà répondu en septembre, octobre, novembre, les auditeurs, et là je leur demande, parce que nous avons plusieurs actions importantes dans les mois qui viennent, de nous envoyer les dons à la même adresse que celle que j'ai donnée, et libellée pour le comité national de soutien de la Voix des Français, c'est-à-dire à Neuilly-sur-Seine.
Merci Georges Clément. On redonne l'adresse encore une fois parce que je sais que les auditeurs vont appeler pour l'avoir, donc redonnez-la bien posément s'il vous plaît.
Donc, la Voix des Français, Renaissance 95, boîte postale 23 92 204 Neuilly-sur-Seine, CEDEX. Et le téléphone d'appel des victimes, dernière fois, 01 42 67 19 92. Merci.
Merci. Et je reçois mon excellent camarade Guy Le Hideux, dont l'entrée est saluée par une musique qui lui fera certainement plaisir.